RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de France, deuxième étape aujourd'hui sur les routes du plat pays hollandais en bord de mer avec une arrivée sur la presqu'île de Zélande dans quelques instants. Et cette étape qui promettait, eh bien, a tenu toutes ses promesses. Nous sommes à quasiment 11 km de l'arrivée avec une nouvelle chute qui vient d'intervenir, Fred. C'est un coéquipier de Valverde, de Quintana, qui est allé au sol.
Oui, un coureur de l'équipe Movistar dans le groupe des battus, un groupe qui évolue à 1 minute 10 du groupe de tête. On rappelle la situation de course avec à bientôt 10 km de l'arrivée, un groupe d'une grosse vingtaine de coureurs où l'on trouve les favoris au général, Alberto Contador et Christopher Froome. Les favoris pour l'étape, Peter Sagan qui vient de rentrer d'une crevaison. Il a fait un violent effort alors qu'il a été réparé d'une crevaison à la roue avant. Il y a Mark Cavendish dans ce groupe de tête également présent, André Greipel, Michal Kwiatkowski et Tony Martin qui roulent pour Cavendish, également là TJ Van Garderen l'américain et Fabian Cancellara entre autres. À 1 minute 15 désormais, un groupe de battus où l'on trouve donc les prétendants au général, Nairo Quintana, Alejandro Valverde et surtout Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot ainsi que Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet, autant de battus qui sont en train d'essayer de limiter la casse en faisant rouler leurs équipiers et en prenant eux-mêmes des relais à 10 km de l'arrivée. 1 minute 15, dernier pointage, on ne mollit pas à l'avant de la course. Alberto Contador fait lui-même rouler ses coéquipiers de Tinkoff Saxo. Les stratèges sont sortis et les gros moteurs à l'avant de ce groupe de tête.
Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Et l'écart, comme l'expliquait Fred il y a quelques instants, Cyril, l'écart qui continue de grandir.
Oui,
à un
oui,
moment
alors,
donné, il était retombé à 49 secondes. Et là, on est à 1,17
d'écart. Il faut signaler que il y a eu une chute dans le deuxième groupe et une chute de l'homme de tête, un équipier de Valverde et de Quintana, qui a chuté, qui a emmené plusieurs coureurs avec lui, ce qui a complètement déstabilisé la poursuite à l'arrière, ce qui explique effectivement que nous sommes maintenant pratiquement une 20 de retard sur ces 10 derniers kilomètres. On risque peut-être d'en perdre encore un peu plus. L'addition commence à être un peu salée.
Oui, et elle laissera des traces cette étape, évidemment, dans cette semaine annoncée très périlleuse. Elle laissera des traces du vernis des coureurs,
pour ceux qui sont allés tâter du bitume. Et elle laissera des traces dans l'influx, le jus, car les coureurs sont en train de passer la journée, la selle dans le cul, comme on dit dans le vélo. Et ils laissent beaucoup, beaucoup d'énergie. Nairo Quintana et Valverde chassent depuis maintenant une trentaine de kilomètres. Pareil pour Perrault, Bardet, Pinot, Nibali, tous ces piégés qui sont dans une situation beaucoup moins confortable que ne le sont Froome et Contador qui, même s'ils roulent à la même allure, sont dans des dispositions mentales beaucoup plus confortables. Oui, Cyril, tu es bien d'accord avec moi?
Oui, mais ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est l'impuissance de l'équipe Astana et de l'équipe Movistar. Ce sont deux des plus grosses équipes et alors qu'ils sont organisés à l'arrière, ils n'arrivent pas à reprendre du temps sur l'échappée.
Oui, mais devant, dans le groupe de tête, il y a des équipes de gros rouleurs qui sont là. Les Tinkoff Saxo avec Rogers ou Kreuziger, les Etik Quickstep avec Kwiatkowski et Martin qui font les locomotives à l'avant de ce groupe de tête, et les BMC qui envoient Quinziato notamment pour protéger TJ Van Garderen. Il y a des locomotives.
Ouais, et on ne s'ennuie pas en tous les cas dans ce Tour de France, Lucho, l'addition risque d'être salée quand même, hein. Ouais. Pour Nibali, Pinot, les principaux Français qui se sont fait tous piéger aujourd'hui. On le disait hier, on s'emballait un peu et d'autres auditeurs et autres tweetos disaient attention, vous emballez pas, demain les bordures, les Français vont se retrouver dedans. Les Français sont retrouvés dedans dès la première bordure ou quasiment.
Oui, mais c'est inquiétant un petit peu pour la suite du Tour pour ses favoris, parce que de prendre pratiquement 1 minute 30 sur la deuxième étape, Quintana, il va pas reprendre la minute 30 comme ça sur Contador, et c'est vrai que là il va falloir stratégiquement trouver la solution avant les Pyrénées, peut-être pour regrignoter un petit peu de temps sur Contador, mais où
il y a
peut-être le compte la montre par équipe, voir si la Movistar et puis
peut éventuellement pour l'instant
c'est pour ça je te dis c'est quand même inquiétant pour Quintana qui est quand même le grand favori de ce Tour de France.
Ouais, Cyril, est-ce que tu partages l'inquiétude de Luc? 1 minute 30, enfin 1 minute 23 pour l'instant.
Mon inquiétude, c'est l'incapacité d'équipe, parce que si on prend les quatre favoris, ils ont quatre équipes à peu près identiques. D'ailleurs, pour le contre-la-montre par équipe qui va se dérouler entre Vannes et Plumelec, on se disait, là, les quatre équipes qui vont faire le classement. Et peut-être on mettait en retrait même la Sky. Bon, et là, on se rend compte, parce que quand on regarde la façon dont roulent les Movistar et la façon dont roulent les Astana, il n'y a pas de gaz, quoi. Ils avancent pas. C'est flagrant.
Ouais. Alors, hier, on se disait, ouais, Froome, Contador, pas très impressionnant. Aujourd'hui, ils ne se sont pas fait piéger, les deux.
Ils ne se sont pas fait piéger. Mais une fois que vous êtes devant, c'est beaucoup plus facile dans la première échappée que derrière, où c'est moins bien organisé. Devant, c'est fluide. Tout est fluide. Et regardez, par exemple, vous avez Greipel ou Cavendish qui ne prennent pas un relais. Pour eux, là, ils sont en vacances. Là, hein. Enfin, ça ne va pas aller jusqu'au bout comme ça. Mais parce qu'il va bien falloir qu'ils fassent le sprint.
Ouais.
Mais vous avez Froome, il ne donne pas un coup de pédale devant. Contador, il ne donne pas un coup de pédale devant. Une fois que la formation... Et en plus, le vent a changé, hein, il faut quand même le dire. Le vent est tombé pratiquement ici sur la ligne d'arrivée. Et il est pratiquement favorable maintenant dans ce final sur les 10 derniers kilomètres. On a un vent légèrement favorable. C'est-à-dire que rien à voir avec les conditions qu'on pouvait annoncer il y a une heure. C'est presque l'été maintenant.
Ah oui, c'est presque l'été. On va tomber les blousons et les cabouets. Le fait de se retrouver à l'avant, de pas être piégé à l'arrière, c'est quoi? C'est une question de chance ou c'est une question de science de la course, Cyril?
Je pense qu'en ce qui concerne les Sky et les Tinkoff, ils ont devancé. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de se mettre en tête et de rouler. Et en prenant l'initiative, ils sont les patrons du rythme et surtout leur leader n'est pas en danger. Il n'a pas en danger dans la mesure où les équipiers vont le mettre à l'abri et c'est derrière qu'il va y avoir les vagues. Et la première cassure qui s'est faite sur une chute, rappelez-vous. Mais devant, et c'est là où j'avais parlé de fair play d'ailleurs, le fair play, ça n'existe pas. Chute, cassure, c'est la course, c'est le Tour de France, on est parti. Voilà.
On est parti et bien parti donc pour les hommes du groupe de tête puisqu'ils possèdent désormais 1 minute 25 d'avance sur les autres attardés. Et parmi eux, on vous le rappelle, Fred, pas mal de grands leaders de ce Tour de France qui vont débourser pas mal de temps à l'arrivée dans quelques minutes puisque nous sommes à 4 km de l'arrivée.
Bien sûr, au premier rang des battus, l'As, le Dossard 1, vainqueur sortant, Vincenzo Nibali, également attardé à 1 minute 25 de la vingtaine de coureurs en tête de course. Thibaut Pinot, évidemment, Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Christophe De Gendt, Kolb, Arnaud Démare, Nasser Bouhanni, autant de sprinteurs qui ne joueront pas la victoire sur cette deuxième étape du Tour de France. On est à 3 km 700 de l'arrivée et l'avance du groupe de tête est toujours d'une minute 25 dans ce groupe de tête. On vous rappelle la présence d'Alberto Contador, de Christopher Froome, de TJ Van Garderen. On parle là du classement général. Pour la victoire finale, on va se focaliser sur les sprinteurs qui restent à l'avant de la course. Qui sont-ils? Marc Cavendish, l'homme de l'île de Man, qui a déjà remporté 25 étapes sur le Tour de France. André Greipel, le gorille de Rostock, l'allemand de l'équipe Lotto Soudal. Peter Sagan, le champion de Slovaquie, coéquipier de Tinkoff Saxo, coéquipier de Contador au sein de cette équipe. Également présent, Fabian Cancellara et Tony Martin, qui étaient respectivement 3e et 2e du général ce matin. Attention, il y a des bonifications à l'arrivée. Le maillot jaune de Rohan Dennis fait partie des battus aujourd'hui. Il va perdre son joli paletot. Est-ce que Cancellara va être capable de faire le sprint pour aller choper des bonifications et endosser un 29e maillot jaune dans sa carrière? Réponse dans quelques minutes. On est à moins de 3 km de l'arrivée. C'est désormais tout droit en direction de la ligne d'arrivée. On est au-dessus de la mer.
Cancellara qui aura quand même peut-être un peu de mal à s'immiscer dans le groupe des meilleurs sprinteurs.
Il n'a pas donné un coup de pédale depuis 50 km maintenant et il sait tout faire. Le Suisse que l'on a vu revenir en forme après s'être fracturé les vertèbres, je pense que ce coureur est un tel battant, un tel champion qu'il va aller faire dans les trois, même si parmi les sprinteurs on a donc Greipel, Cavendish et Sagan ainsi que le français Tony Galopin.
Très bien, le peloton et les hommes de tête qui se trouvent actuellement sur l'une des digues qui protège les terres des Pays-Bas. Vous le savez, les Pays-Bas avaient été victimes d'un raz-de-marée dans les années 50 et depuis on a fait ce plan, le plan Delta, pour construire des protections, des digues énormes qui sont gérées au millimètre. Évidemment, ils protègent les Pays-Bas puisque la plupart de ces Pays-Bas, comme leur nom l'indique, sont en dessous du niveau de la mer. 1,7 km de l'arrivée, Fred, et toujours cette avance conséquente pour les hommes de tête, 1 minute 22. On ne s'observe pas, Cyril, à l'avant, on ne s'observe pas, on continue de filer tout droit pour essayer de prendre le plus d'avance sur les hommes retardés, hein.
Oui, et c'est tout à fait logique, puisque qui roule en tête? Eh bien, c'est l'équipe Etix Quick-Step qui roule en tête. Elle ne va pas relâcher la pression pour éviter éventuellement une attaque de Cancellara, on en parlait tout à l'heure, ou de Tony Galopin. Donc en fait, on emmène comme une arrivée au sprint en peloton, on roule devant, et puis on ne s'occupe pas de ce qui se passe derrière. Il faut de toute façon déposer Cavendish aux 200 mètres.
Et si Fabian Cancellara ne parvient pas à prendre des bonifications, c'est Tony Martin, l'allemand coéquipier de Cavendish chez Quick-Step, qui endossera le maillot jaune, lui qui compte une petite seconde d'avance au général sur Fabian Cancellara. C'est désormais Geraint Thomas, le coéquipier de Christopher Froome, qui emmène ce groupe de tête, relayé maintenant par le champion du monde Michał Kwiatkowski, le coéquipier de Cavendish qui veut protéger son sprinter à l'approche de la flamme rouge.
La flamme rouge du dernier kilomètre que les hommes de tête vont franchir dans un instant, le dernier kilomètre de cette deuxième étape du Tour de France, dans quelques secondes.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Voilà, place maintenant aux hommes rapides, les sprinteurs du peloton qui vont s'en donner à cœur joie pour cette première arrivée au sprint. Ils ne sont pas tous là, mais parmi les sprinteurs, il y a du lourd, du très lourd même.
Ouais, il en reste des gros. Mark Cavendish, The Manxman, André Greipel, l'allemand, ou Peter Sagan. Ce sont les trois favoris désormais pour la victoire d'étape. On est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Mark Cavendish est lancé par ses coéquipiers de la formation Etix Quick-Step. Mark Cavendish qui part de très loin. Il est en tête avec André Greipel dans sa roue. André Greipel en plein centre de la route avec Peter Sagan qui vient aller essayer de sauter André Greipel sur la droite. Mais André Greipel, l'ancien champion d'Allemagne, remporte ici à Zeeland pour une demi-roue sa septième victoire d'étape sur le Tour de France. Victoire, me semble-t-il, de Greipel devant Sagan et Cavendish. Ouais. Est-ce que Fabian Cancellara, qui était sur l'extrême droite de la route,
peut-être
vient faire dans les trois,
est-ce
qu'il vient faire troisième pour aller prendre les 4 secondes de bonification? C'est très important pour ce qui est de l'attribution du maillot jaune.
Et maintenant on va observer le groupe des attardés, puisque les hommes de tête sont franchis la ligne il y a maintenant 35 secondes. Au dernier écart, il y avait environ 1 minute 25. Évidemment, on va déclencher nos chronomètres. Tony Galopin est derrière la ligne avec...
Oui, exactement, Toro. Quelle belle opération, Tony, aujourd'hui. Et puis le cri là de Greipel il y a quelques instants.
Et là, c'est magique.
Il se retrouve d'ailleurs, il est là, André Greipel, à côté. Ils sont en train de se serrer dans les bras avec Sieber. Tiens, on va glisser le micro pour l'ambiance, écoutez. Voilà, Tony Galopin, ils sont tous ensemble. Et c'est vrai que dans l'équipe Lotto Soudal, là, il y a beaucoup de joie après cette étape très compliquée, très difficile à gérer. On a vu passer Fabian Cancellara également juste à côté. À nouveau l'embrassade là entre Greipel et Tony Galopin, quasiment au milieu de la route. C'est assez surprenant, comme une arrivée sur les champs. Tony, il y a beaucoup de joie là, hein.
Oh, c'est incroyable. On était tellement motivés pour cette étape. On a vraiment été la chercher. C'est nous qui avons fait la bordure. Et voilà, on a joué à la perfection la victoire d'étape. Ensuite, on a laissé les coureurs du général faire le travail. Et voilà, on a gagné cette étape. C'est fantastique, c'est fait.
Que d'efforts aussi à donner aujourd'hui, hein.
Ouais, mais bon, on savait que ça allait être une grande journée. Il y a vraiment eu du sport, mais bon, voilà, on aime ça chez Lotto, c'est Lotto Soudal, donc voilà, c'est une bonne chose.
On vous sent en grande forme, à titre personnel.
Ouais, ça allait. Et quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de remettre un coup quand ça avait cassé une première fois, et à la sortie d'un village avec les ronds-points, on connaissait le parcours, et voilà, on en a profité pour mettre un bon coup, et ça c'est fait.
Merci beaucoup, Tony Galopin. Et la joie du côté de Lotto Soudal, ce qui n'est pas forcément le cas du côté des FDJ qu'on voit passer à côté de nous. On va essayer d'entendre dans quelques instants sans doute l'un des coureurs de cette équipe de Thibaut Pinot.
Une 27 d'écart, effectivement. Merci Pierre-Yves, la joie de Tony Galopin. Toute la science de la course de la formation Lotto qui a été énorme aujourd'hui. Une 27 d'écart, donc de retard plus exactement pour Pinot. Pinot, pour Perrault, pour Quintana, pour Rodriguez, pour Nibali, pour Valverde ou encore pour Bardet. Et puis, un maillot jaune qu'on destinait aux épaules de Tony Martin. Eh bien non, il va sur les épaules
de Fabian Cancellara. Cancellara annoncé comme favori hier sur le contre-la-montre, qui a échoué derrière Rohan Dennis, derrière Tony Martin, et qui aujourd'hui vient prendre la troisième place du sprint. On vous l'avait quasiment annoncé à 10 km de l'arrivée. Cancellara est un pur champion, le Suisse de 35 ans qui va endosser dans quelques instants le 29e maillot jaune de sa carrière.
Warren Barguil est aux côtés de Pierre-Yves Leroux derrière la ligne.
C'était l'essentiel, c'était pas que ça recasse.
T'as vu Nibali, Quintana était pas là.
Ouais, ça.
T'as pas surpris ça?
Non, Quintana, il était juste derrière moi, juste devant moi quand il y a la bordure, et j'arrive à rentrer, lui il rentre pas, donc c'est qu'il avait pas non plus les jambes peut-être sur le plat pour être dans la première bordure.
Moralement, c'est super non de commencer comme ça le tour?
Ouais, c'est bon moralement, c'est que commencer. Hein.
Il fallait mettre beaucoup de coups de pédale aujourd'hui, être très attentif et pas rater la bonne, quoi.
Ouais, puis aussi avoir une partie de chance, comme je dis, mais il faut la provoquer. C'est pas un hasard si je suis devant, si je provoque la chance, c'est que je l'ai aujourd'hui, c'est tant mieux.
Tu remets les bordures comme ça, Warren, ou quoi?
Ouais, les bordures, j'ai jamais été trop mauvais, mais chez les pros, c'est différent, ça roule plus vite.
Ça donne beaucoup d'espoir pour le général aussi?
Ouais, ça on verra par la suite. C'est pas ce qui est pris n'est plus à prendre, mais ouais, c'est encore long, c'est 3 semaines de course. Hein.
Merci Warren.
Warren Barguil, coureur grimpeur de l'équipe Giant Alpecin, qui a terminé dans le premier groupe en compagnie de Galopin, mais surtout de Contador et de Froome, lui qui peut-être viser un accessit au classement général. Il découvre, lui, le grimpeur breton, il découvre le Tour de France. Vous avez entendu, comme un jeune coureur français qui découvre le Tour peut être heureux. On a senti sa voix chevrotée, sa voix vibrer. On est là dans le domaine du rêve, évidemment. Un troisième peloton est en train d'en terminer. Un peloton où l'on trouve des coureurs qui ne sont absolument pas concernés par le classement général. Mais effectivement, Warren Barguil a accompagné son leader Tom Dumoulin dans cette première bordure. Il y a plusieurs enseignements à tirer aujourd'hui. L'enseignement majeur, c'est que le duo Contador-Froome a piégé le duo Nibali-Quintana. Un trio ou un quatuor Nibali-Quintana-Pinot. Perrault, Bardet, tous ceux-là sont battus, tandis que Froome et Contador ont parfaitement joué le coup. On a là une guerre gérée à l'expérience et non pas à l'intox.
Marc Madieu, le manager FDJ, avec Pierre-Yves Leroux derrière la ligne.
Oui, nous sommes au bus de la FDJ alors que Thibaut Pinot est sur les rouleaux après cet effort. Marc, c'était compliqué, on le savait. Aujourd'hui, quel sentiment après cette étape?
Une journée de passé surtout, sans bobo. Après, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire.
Voilà. Il y avait un gain de temps, on a envie de dire hier, il est un petit peu réduit aujourd'hui.
Il y avait moyen d'être devant, mais après, ça s'est fait sur un rond-point, je pense. Il y a eu une mauvaise relance et puis une cassure, et c'est parti comme ça. Nibali n'y était pas, ils en ont profité. Bon.
Un peu de déception?
Non, pas un petit peu, mais pas plus que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Il y a eu un moment de tempête qui a casmé la panique dans le peloton, donc on voit que c'est dangereux, que ça chute. Il y a beaucoup de vent. On le savait avant de venir, hein. On savait que ça allait avoir des répercussions sur le comportement du peloton, ce qui a été le cas. Il y a eu du vent pendant une période, de la pluie. Ça a duré une demi-heure, mais en une demi-heure, on voit que ça peut semer la zizanie dans le peloton.
Le tour sera long.
Il sera très long.
Merci Marc, on va aller écouter Thibaut Pinot qui est en train de répondre juste à côté de nous. On va essayer de glisser le micro si on y arrive, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de monde, mon cher Christophe,
oui,
tout autour, mais j'ai le bras long, on va tenter. Allez, c'est parti.
Bah, pas de panique, non, mais voilà, on sait que ça joue à pas grand chose. Un rond-point pris sur la droite, il fallait passer sur la gauche, et voilà, ça s'est joué à 2 mètres près. C'est comme ça, il faut être placé un peu mieux. Et voilà.
On parlait de semaine de tous les dangers, vous n'avez pas menti, évidemment.
Ouais, pas menti, c'est pas. Je pense qu'à la télé, c'était une belle étape à regarder. Mais c'est sûr que demain, voilà, ça peut recommencer. Après, on n'en court pas au pavé, donc tous les jours, il peut y avoir un rebondissement. Et aujourd'hui, il y en a eu un. Genre.
À 2 mètres près, il y a trop été dégoûté.
Ouais, bah bon, là, voilà, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui sont tombés. C'est l'effet de course, quoi.
De la solidarité
en fait, ouais, bah ça au début, voilà, on était avant que le groupe, notre peloton rentre sur nous. C'était avec Nibali, et voilà, Nibali était un peu tout seul, moi aussi, donc on n'a pas trop roulé, on a attendu le groupe derrière. Et là, ça a bien roulé avec le Movistar et Astana, AG2R aussi.
Prochain épisode, c'est le numéro 8.
Ouais, prochain épisode, donc là, voilà, ça sera différent, mais faudra être placé. Ça va jouer au passement, quoi.
Voilà, Thibaut Pinot qui évoque déjà la journée de demain avec le mur de huit et qui continue à faire tourner les jambes un peu comme tous les coureurs ici à l'image juste à côté de nous de cette équipe Movistar et des coureurs d'ailleurs qui arrivent encore maintenant, qui passent seulement la ligne après avoir beaucoup souffert.
Très bien, merci Pierre-Yves pour toutes ces réactions. Donc Marc Magnot, le manager, et Thibaut Pinot, le leader de la formation FDJ. Lucho, il n'y a pas tant de déception que ça. Alors peut-être que c'est pour la façade, mais on sait que ce qu'ils voulaient éviter, c'est la gamelle, évidemment, et de perdre trop de temps. Ils en ont perdu aujourd'hui, hein, on le rappelle, une 27, mais ils sont encore en course, mais bon.
Oui, ils sont en course, mais bon, moi je serais à la place de Thibaut Pinot, je serais quand même déçu à l'arrivée d'avoir perdu une minute 28 sur deux principaux favoris, Contador et Froome. Donc c'est vrai que pour Thibaut, qui vise peut-être le podium, c'est pas que ça devienne de plus en plus difficile, hein, on n'est que le deuxième jour, donc attention. Oui. Il y a quand même des pavés qui arrivent, il y a l'étape arrivée du contre-la-montre aussi qui est très importante, et puis il y a aussi cette fameuse arrivée au mur de Huy où éventuellement Thibaut Pinot peut essayer de faire quelque chose. Le tour n'est pas fini, mais c'est vrai que autant on pouvait dire hier dans la première journée pour Thibaut, psychologiquement c'est important de bien démarrer le tour, et paf, tu sais, le tour, il est tous les jours, c'est un rebondissement, donc il s'est passé ça pour lui aujourd'hui, c'est décevant. Il peut se passer la même chose pour Contador ou Froome, et Froome sur la suite du tour, donc c'est pas terminé quand même.
Très bien, Fred, on va récapituler les classements puisqu'on a le classement général qui vient de tomber, et aussi le classement de l'étape puisque le gorille de Rostock a frappé à l'arrivée ici à Zénon.
Et on l'a entendu pousser son cri dans les bras de Tony Galopin. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le gorille de Rostock, lui qui, on peut le dire, a le physique le plus musculeux.
Je voudrais pas me recevoir une paire de claques du gorille, hein, je te le dis.
Le plus musculeux du peloton, vraiment, il est impressionnant à voir et impressionnant à regarder quand il sprint comme il l'a fait. Mark Cavendish a lancé d'un peu trop loin, ouais, aux 300 mètres, et André Greipel l'a débordé dans les 100 derniers mètres. André Greipel qui vient devancer ici à Zélande, au bout d'un long pont de plus de 2 km, il devance d'un quart de roue le champion de Slovaquie Peter Sagan et le Suisse Fabian Cancellara. Mark Cavendish n'est que 4e, dépité le sprinter de l'équipe Etix Quickstep de Manxman. Fabian Cancellara, grâce à sa troisième place, endosse le maillot jaune. Il devance au général Tony Martin, l'allemand, de 3 secondes et Tom Dumoulin, le hollandais, de 6 secondes. Fabian Cancellara, 34 ans, Spartacus, le suisse de l'équipe Trek, qui endosse aujourd'hui son 29e maillot jaune.
Et à noter que le mieux placé des 4 fantastiques se nomme Chris Froome. Il est ce soir 10e au général avec un retard de 48 secondes donc sur le nouveau maillot jaune de Fabian Cancellara. 17h28 sur RMC. L'intégral tour, ça dure encore une demi-heure. Revenez, restez avec nous. On a encore plein de choses à se dire jusqu'à 18h. A tout de suite.
RMC, intégral tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Alors
Christophe Cessieux.
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras.
Et on s'en rapproche doucettement de l'Arc de Triomphe. Hein. Il reste plus que combien? 19 étapes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il se passe beaucoup de choses sur les routes du Tour avec cette deuxième étape qui promettait et qui a donc tenu toutes ses promesses. On vous rappelle la victoire de Greipel devant Sagan et Cancellara. Et le nouveau maillot jaune, c'est Cancellara. On va rappeler tout ça dans un instant avec Fred. Mais je crois que Pierre-Yves Leroux est en compagnie d'un autre coureur du peloton qui vient d'en terminer. Pierre-Yves.
Exactement. Anthony Delaplace qui est monté sur les rouleaux là pour continuer à faire tourner les jambes. Je vous l'expliquais tout à l'heure, comme la plupart des coureurs. On peut rappeler, Anthony, à quoi ça sert là, ce que vous êtes en train de dérouler, de continuer à pédaler alors que vous avez souffert déjà une partie de la journée?
Ouais, c'est parce qu'on franchit la ligne à fond, à 175-180 pulsations cardiaques, donc c'est pour faire redescendre gentiment le cœur et puis aussi éliminer les toxines du jour, parce que c'est vrai que quand ça roule vite comme ça, on a pas mal de toxines et mal aux jambes, donc ça permet de faire un petit décrassage avant le massage.
On connaît sur Paris-Roubaix les visages avec de la boue. Là, vous avez du sable sur le maillot. La plupart des coureurs ont énormément de sable sur le maillot. Ça a été une étape assez folle. Racontez-nous un petit peu.
Oui, bah, c'était une étape folle. Comme en première semaine du tour, mais là en plus encore, c'était tout en bord de mer le final, avec beaucoup de vent, et ça a été nerveux à partir de 60-70 km. Et après, il y a eu chute sur chute, la grosse averse, la pluie qui s'est mêlée à la partie, et voilà, résultat, ça fait pas mal de chutes, de cassures, et ouais, c'était une journée, je peux vous assurer, pas une journée de plaisir.
Ça sera pas facile demain non plus avec le mur de 8 pour finir.
Non, c'est sûr, mais bon, après, je pense que demain, ça va être vraiment les 40-50 derniers kilomètres qui vont être plus difficiles. Là, c'était 100 km de l'étape qui était compliqué.
Merci beaucoup, Anthony Laplace. Bonne soirée. Bon retour à l'hôtel avec les éoliennes en face. La mer, c'est beau. Maintenant, il y a un peu de soleil.
C'est vrai, le soleil est revenu, la pluie est partie. Elle nous a mis une belle panique, cette pluie, alors que Fabian Cancellara, Fred, est en train d'endosser son beau maillot jaune. Il a le grand sourire après la déception d'hier. Il est de retour. Ce matin, dans la voiture, tu nous disais, il lui manque une petite semaine de préparation.
C'est Cyril qui disait ça. Et Jacques qui essaie.
Oui, c'est Cyril qui disait ça. Tu as raison, c'est le druide.
Le druide.
Il a rattrapé la semaine en une journée, finalement.
Il a la science, le druide, évidemment. Fabian Cancellara, qui a vu sa campagne des classiques, lui, le spécialiste des courses flandriennes, sa campagne des classiques anéantie par une chute dans une semi-classique préparatoire, fracture de vertèbre et donc une croix sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il est revenu au cours du mois de juin, il a participé au Tour de Suisse comme à une épreuve préparatoire en vue du Tour de France. Il n'avait pas prévu de disputer le Tour de France, il en a visiblement assez de disputer les trois semaines de course en plein mois de juillet, lui qui déclarait avant le départ d'Utrecht que c'était probablement le dernier Tour de France auquel il participerait. C'est son 10e tour à Fabian Cancellara, 34 ans, qui s'est un peu loupé à cause de cette semaine manquante justement hier, en ne décrochant que la 3e place du contre-la-montre d'Utrecht derrière Rohan Dennis et Tony Martin. Eh bien, il s'est rattrapé aujourd'hui. Pour tout dire, on en était un peu convaincu ce matin au petit déjeuner que Fabian Cancellara aurait la frite nécessaire pour aller prendre quelques bonifications sur la ligne d'arrivée. Le scénario du jour lui a souri, avec un groupe qui s'est disloqué et une grosse vingtaine de coureurs qui s'est disputé la victoire ici à Zélande. Il a pris la 3e place derrière donc André Greipel, le sprinter allemand de l'équipe Lotto Soudal, qui remporte aujourd'hui sa 7e étape sur le Tour de France, qui devance pour un quart de roue le Slovaque Peter Sagan et donc Fabian Cancellara. Marc Cavendish, le sprinter de l'île de Man, prend la 4e place, lui qui a été épaulé dans les 50 derniers kilomètres par toute son équipe Quickstep. Il a fait rouler le champion du monde Michał Kwiatkowski, le champion allemand Tony Martin, mais Cavendish a lancé de trop loin sur ce pont là-bas en pleine mer du Nord. Sur ce pont, il a lancé à 300 mètres et il a été débordé dans les 100 derniers mètres. Fabian Cancellara est le nouveau maillot jaune, avec 3 secondes d'avance sur l'allemand Tony Martin et 6 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, le néerlandais. Principal enseignement aujourd'hui dans cette étape de bordure, dans cette étape toute plate, le duo Christopher Froome, Alberto Contador a fait la nique au Nibali, Perrault, Pinot, Bardet, Rodriguez, Valverde, Quintana, tous piégés dans cette étape de bordure et qui ont franchi la ligne ici à Zélande avec 1,27 de retard sur le groupe de tête, où Contador et Froome sont les deux grands gagnants du jour.
Alors, j'ai les classements justement des principaux favoris de ce Tour de France, qu'ils se nomment fantastiques ou un peu moins fantastiques. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont perdu des plumes dans la bataille. Donc, le premier des fantastiques, c'est Chris Froome, qui est 10e ce soir au général avec un retard de 48 secondes. 14e, Alberto Contador, avec un retard d'une minute, et beaucoup plus loin, 31e, Thibaut Pinot à 2,07, Nibali est 33e au général à 2,09, Jean-Christophe Perrault 41e à 2 minutes 25, Quintana 44e à 2,27 et Romain Bardet, qui vraiment rate son début de Tour de France, 78e au général avec un retard de 3 minutes pile. Cyril, l'addition est salée pour certains ce soir, hein.
Oui, alors il y a deux façons, vous savez, de lire le classement général. Si on le prend par rapport aux grands favoris, aux quatre favoris du Tour, on s'aperçoit que Froom et Contador ont 12 secondes d'écart. Ensuite, si on prend par rapport à Contador, eh bien, on se retrouve avec finalement Galopin qui est dans le même temps que Contador, Barguil qui lui est à 25 secondes, Pinot est à 1,07 de Contador, Nibali est à 1,09, Quintana est à 1,27, Bardet à 2 minutes et Perrault à peu près à 1,25 également. C'est-à-dire que pour la course au podium et la course au maillot jaune, eh bien, Bardet semble avoir perdu une grande partie de son crédit. C'est vrai pour Jean-Christophe Perrault. On va laisser du crédit quand même parce qu'il avait un bon placement, c'est Quintana, mais qui devra reprendre une 27, une 29, oui, qui devra reprendre à Froom une minute 27 dans la montagne. C'est pas gagné. Et puis, si on se réfère au contre-la-montre par équipe, ce qu'on a vu de l'équipe Movistar ou de l'équipe Astana n'est pas très rassurant en fonction du contre-la-montre par équipe. Est-ce qu'ils ne vont pas continuer à perdre du temps? Et finalement, on va se retrouver qu'avec deux grands favoris, Froom et Contador.
Eh oui, Froom et Contador.
Sans oublier Uran, qui est quand même le mieux placé des coureurs, on va dire, dangereux pour un classement général.
Oui, parce que pour reprendre plus d'une minute à Contador et encore un peu plus à Chris Froome dans la montagne, oui. Bon, même si ils peuvent être piégés dans les étapes qui arrivent.
Je vous attendais, messieurs. Je vous attendais, je vous laissais en terminer. Vous êtes en train de reprendre déjà des secondes et des minutes en montagne, mais avant la montagne, il va encore se passer tellement de choses. On n'en est qu'à la deuxième étape, la première en ligne. Demain, il y a l'arrivée au mur de Huy. Outre les écarts en haut de ce juge de paix de la Flèche Wallonne, il y aura les dizaines de kilomètres qui précéderont le mur de Huy. Et là, à tous les coups, il y aura des gamelles comme sur la dernière Flèche Wallonne. Les coureurs sont encore frais.
Surtout que les routes sont pas si larges que ça.
Ah, c'est la Belgique.
Moi, je connais bien.
C'est la Belgique. Ce sera hyper tendu.
Sauf que nous n'aurons pas les sprinters pour venir se mêler à la bagarre dans le final.
Non, mais c'est sûr que ça frottera. Et puis outre le mur de Huy, mardi il y aura l'étape des pavés vers Cambrai, donc ne parlons pas encore de la montagne. Il peut se passer tellement de choses avant les Pyrénées. Il y a une dizaine de jours de course avant de rallier la montagne, et donc on fera les comptes, si vous le voulez bien, au soir de Plumélec, au soir du contre-la-montre par équipe dimanche prochain.
Très bien. Sur le hashtag RMC Live, ça se lâche, notamment concernant Thibaut Pinot, avec des gens très sympathiques. OM for Life nous dit il est où le fantastique Pinot, une bordure et 1 minute 20 dans les dents comme prévu, bravo les spécialistes. Ou encore notre ami suisse Résu qui nous dit ça fait plus les malins, hein, les frouzes avec votre Pinot, il est moisi ce gars.
Voilà. Hey, ça, c'est... Hey, ils sont malheureux ces gens là
oui,
quand
non
même,
mais ils ont que ça, ce sont ce qu'on appelle des rageux, voilà.
C'est pas très sympa quand
Rico
même.
Qui nous dit c'est quand même dommage de perdre une 27, mais ça aurait pu être bien pire. En tout cas, chapeau Barguil d'avoir accroché le bon groupe, parce que c'est le français qui s'en sort le mieux sur ce coup-là aujourd'hui.
Allez, hein. Je voudrais quand même rappeler par rapport donc à nos tweetos qu'on n'a jamais été on n'a jamais eu des propos qui encensaient au point de dire qu'on a toujours mis des réserves sur les coureurs français depuis le départ, moi en ce qui me concerne.
On a simplement salué la performance de Thibaut Pinot hier, qui en était une vraie.
On n'est pas aveugle, on n'est pas dupe, on n'est pas naïf. On sait où sont les points forts, où sont les points faibles. Et aujourd'hui, on espérait qu'il rate pas la bordure. Mais comme je dis, c'est un exercice très difficile pour lequel Thibaut Pinot n'est pas véritablement préparé, et j'ai même dit, rappelez-vous, ce serait bien qu'il aille faire les classiques de début de saison pour justement aller se frotter à la réalité des bordures, à la réalité de ce qui fait l'essence même d'un coureur, c'est-à-dire être capable de s'imposer en patron quand le vent a décidé d'être présent.
Très bien, Fabien Cancellara qui est en train de répondre à nos confrères, il sera au micro de Pierre-Yves Leroux dans quelques instants. On va se quitter quelques instants, il est 17h42, vous êtes sur RMC. L'intégrale Tour de France revient dans quelques instants. Victoire de Greipel aujourd'hui, Cancellara nouveau maillot jaune, Froom et Contador sont le grand vainqueur du jour, Pinot, Nibali, Perrault, Quintana et Bardet ont peut-être déjà perdu le Tour. À tout de suite sur RMC, l'intégrale Tour revient.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
En direct de Zélande, en plein milieu de la mer du Nord, terme donc de cette deuxième étape du Tour de France qui conduisait les coureurs de Utrecht jusqu'ici, donc 166 km au programme et une tempête en plein milieu de la course, des coups de bordure, du vent, de la pluie qui ont déstabilisé une partie du peloton. On va refaire le scénario dans quelques instants puisque nous sommes toujours avec Luc Leblanc, Fred Adam et Cyril Guimard. En attendant, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot, paru aux éditions Talents Sport, et surtout vos places top VIP pour assister à l'étape entre Muret et Rodez qui aura lieu le vendredi 17 juillet avec un départ en avion depuis le Bourget, le suivi de l'étape dans une voiture de l'organisation, les déjeuners et l'accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, journée de rêve. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, appelez le 3216 touche 6 ou envoyez le mot clé RMC par SMS au 73216. Bonne chance. Voilà donc le soleil de retour ici après la tempête. Vient le beau temps, même aux Pays-Bas. Fred, une tempête qui a frappé le peloton, tempête sur la route et tempête également pour le classement général, puisqu'il s'est passé des choses aujourd'hui. On va tout de même rappeler la victoire du gorille, le gorille de Rostock. André Greipel, il va nous pousser son bras. Ben voilà quand même. Il est là, le gorille. Il le fait bien.
Et il le fait beaucoup mieux que nous, ça c'est sûr. Il a poussé ce cri sur la ligne d'arrivée. Et ensuite dans les bras de Tony Gallopin. Tony Gallopin qui a été l'un des artisans de cette victoire, parce qu'on ne gagne jamais sans les autres dans la vie, comme sur un vélo. Aujourd'hui, André Greipel a devancé sur la ligne d'arrivée ici au bout d'un pont long de 2 km. Peter Sagan, le champion de Slovaquie, et Fabian Cancellara, le Spartacus suisse. Quatrième place pour Mark Cavendish qui a lancé son sprint de trop loin. Cancellara qui endosse le maillot jaune pour 3 secondes grâce aux bonifications. Il devance de 3 secondes l'Allemand Tony Martin et de 6 secondes Tom Dumoulin. Mais on va rappeler le scénario de cette course et les grands enseignements, puisque tout est venu. Oh, ça a commencé à près de 100 km de l'arrivée, des premières bordures avec la pluie qui s'est abattue sur la course. Elle était courte cette étape, 166 km, et après 66 km de course, première bordure, c'était une simple alerte. Les choses sont rentrées dans l'ordre, mais à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, tout a basculé quand l'équipe Lotto Soudal d'André Greipel, tiens et les éthiques Quickstep de Mark Cavendish ainsi que les Tinkoff Saxo d'Alberto Contador se sont positionnés à l'avant du peloton, profitant d'un vent de côté, un vent qui venait de la mer pour créer ces fameuses bordures qui ont aujourd'hui été fatales à Thibaut Pinot, à Vincenzo Nibali, à Jean-Christophe Perrault, à Romain Bardet, à Nairo Quintana, à Alejandro Valverde. Autant de battus qui, sur la ligne d'arrivée, ont lâché 1 minute 27 sur un groupe d'une grosse vingtaine de coureurs où figuraient les prétendants à la victoire finale que sont Alberto Contador et Christopher Froome, les sprinteurs qui se sont expliqués, on vient d'en parler. Il y avait également là Tony Martin et Michał Kwiatkowski, le champion du monde, qui ont beaucoup travaillé tout au long de la journée pour leur sprint. Mark Cavendish est donc dans ce groupe de tête. Froome et Contador, Van Garderen également un outsider pour le classement général, et Cancellara qui était là en embuscade, qui a fait de la patinette en attendant le sprint final. Il a gardé un maximum de fraîcheur pour aller faire le sprint et prendre la troisième place, synonyme de bonification et synonyme d'un 29e maillot jaune pour le Suisse Fabian Cancellara, âgé de 34 ans et qui a assuré vivre cette année le dernier Tour de France, son 10e. Cancellara fait de la résistance, mais pas pour des clopinettes.
Ouais, pas pour des clopinettes. Luc, c'est vrai que Cancellara nous a surpris, même si Fred l'annonçait avant le sprint, il va peut-être se mêler à la bagarre des grands sprinteurs. Et effectivement, il est venu quand même coiffer Cavendish. C'est dire toute la science et toute la puissance de ce garçon qui est un coureur exceptionnel, Fabien Cancellara.
Il a du métier. Il a fait ça au métier. Il s'est servi un petit peu des autres. Et puis Cavendish était peut-être un petit peu isolé. Cavendish est parti de loin. Il est parti de loin et il a regardé un petit peu à l'arrière et il a giclé au bon moment pour prendre les bonifications et prendre le maillot jaune aujourd'hui. Franchement, je crois que c'est vraiment, je crois que les écoles de cyclisme peuvent regarder le final de Fabian Cancellara. Il avait envie de prendre le maillot jaune, il avait envie de marquer de son empreinte le Tour de France et il l'a fait aujourd'hui. aujourd'hui vraiment formidable.
Fabian Cancellara qui a sprinté au contraire évidemment de Cavendish, de Greipel et de Sagan, qui a sprinté assis sur la selle pendant les 100 derniers mètres comme d'habitude, tout avec les reins. Cyril, il aura son avis sur la façon dont Cancellara est venu sauter sur la ligne Mark Cavendish pour aller prendre cette troisième place synonyme de bonification. Un sprint assis aussi efficace, c'est rarissime. C'est un sprint à l'ancienne. Il y a des coureurs comme Bernard Hinault ou comme Jacques Anquetil qui étaient capables de sprinter des sprints longs comme cela. On en manquera dans les années qui viennent si Fabian Cancellara n'est plus au départ de ce Tour de France les prochains mois de juillet.
Qui sait tout faire en plus, Fabian Cancellara. On rappelle son palmarès incroyable, non seulement dans le contre-la-montre, là on l'a vu en sprint, et puis vainqueur de toutes les plus grandes classiques du calendrier, que ce soit Paris-Roubaix, le Tour des Flandres.
Trois fois pour Roubaix, trois fois pour les Flandres. Un métronome, il est super régulier, il a des titres de champion du monde du contre-la-montre, évidemment également, mais surtout il nous ravit dans son approche de la course, dans la manière par exemple dont il a vécu et conduit son contre-la-montre hier. C'était le plus beau des 198 coureurs à regarder, lui qui négocie les trajectoires de la meilleure des façons, lui qui est un artiste, lui qui a fait ses classes sur des planches de ski simplement. On voit bien ses talents de descendeur à ski ou à vélo, des talents qu'il est capable de mettre à profit sur un contre-la-montre. L'âge aidant, il est devenu capable également de se muer en sprinter efficace, sprinter long. On parlait, Cyril, tu viens de nous rejoindre, toi qui es un ancien sprinter, voir Cancellara sprinter sans lever le cul de la selle comme ça, c'est unique aujourd'hui, et ça a été tout bénéfice aujourd'hui.
Oui, puisqu'il a fait son sprint...
C'est bon, t'entends.
Il a fait son sprint en venant uniquement dans les abris et bien concentré, et il croise bien derrière. Se mettre en danseuse n'aurait pas apporté grand chose, mais lorsque j'ai regardé encore les images tout à l'heure, il peut dire merci à Cavendish.
Cavendish s'est complètement loupé.
Mais il s'est relevé même sur la
fin.
Non, il se relève. S'il se relève pas, au lieu de regarder qui gagne, il fait troisième. Et c'est son équipier, oui, Tony Martin, qui serait maillot jaune.
Oui, c'est vrai, Cavendish n'en a rien à cirer de faire deuxième ou troisième.
Raison,
exactement.
Vrai, ça,
il n'avait pas envisagé que Cancellara vienne prendre des bonifications pour devancer au général son propre coéquipier Tony Martin. Cavendish était complètement dans la victoire d'étape, lui qui est un peu sevré de victoire sur ces dernières années.
Mais c'est complètement raté, là.
Oui, l'équipe Quick-Step qui a fait la plus grosse partie du boulot pendant les 30 derniers kilomètres en faisant rouler Tony Martin et Kwiatkowski pour Cavendish. On n'avait pas pensé au général.
Tiens, l'un de nos tweetos qui était peut-être pas à l'écoute tout à l'heure en début d'émission. Salut les gars, je suis fouteux, j'aime le tour. Pouvez-vous expliquer ce qu'est un coup de bordure? Rapidement, Cyril, en 30 secondes pour les gens qui découvrent le vélo.
C'est dommage qu'il n'ait pas écouté les grandes gueules, les GG ce midi, parce que j'ai fait 20 minutes là-dessus. Et oui, alors faire ça en 30 secondes, c'est pratiquement impossible, mais il faut savoir que le vélo c'est de la voile, et que lorsque vous roulez à 50 à l'heure, eh bien vous avez plus de 90% de l'énergie que vous produisez pour vaincre cette résistance à l'air. Le reste, les roulements, les frottements, c'est trois fois rien. Le problème, c'est que le vent, il n'est pas toujours de face, il tourne, et là, eh bien il faut savoir que il faut aller chercher l'aspiration entre les différents coureurs, et quand une bordure est montée, il y a des coureurs qui se mettent en position de portier et ils empêchent les autres coureurs de rentrer à partir du moment où la composition de la bordure leur va. En règle générale, ce sont quand même leurs équipiers.
35 secondes pour expliquer ça. Moi, je dis bravo, je dis chapeau, maître. Chapeau, monsieur le Druid.
Ah, j'ai pas raté la bordure. Hein.
Non, tu étais bien. Je pense que tu t'es pas fait souvent avoir dans les bordures dans ta carrière de coureur cycliste.
Non, j'étais plutôt du fois le portier.
Tu t'es fait piéger dans les bordures, toi, ça t'est arrivé, non?
Ben ça m'est arrivé oui et non, moi je me souviens comme tout le monde, même des grands spécialistes de bordure se font avoir, mais
plutôt
je me souviens,
oui que non quand même.
Je me souviens autour en 94, il y a eu des grosses bordures la première semaine et j'étais dans les premières bordures.
Eh ben voilà, t'étais en grande forme cette année-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour l'intégral tour.
J'ai des petites qualités sur le plein aussi,
on va revenir évidemment à 19h. En attendant, on va retrouver Seb Dara à sa maison Lafitte pour le récap des courses du jour. Salut Seb.
Salut Christophe, bilan mitigé mais en même temps nous a changé. changer le parcours de notre quintet quelques minutes avant la course, qui a pris du retard. Un cheval avait glissé dans la deuxième épreuve du programme. Donc pour des raisons de sécurité, on a décidé de passer corde à gauche, alors qu'on était censé être corde à droite dans ce quintet. Les attentistes pourtant se sont bien comportés avec la victoire du 15 Proud Mary devant le 16 Enfin Seul, le 12 Fontvieille, le 13 Ataman Ermac et le 5 King Glens. 15, 16, 12, 13 et 5, un quintet qui rapporte 133 000 euros dans l'ordre. Demain, on prend la direction de Compiègne, que des femelles au départ, et je vous conseille vivement de racheter le 4 Tarnac, qui a déjà gagné sur cette piste. L'aptitude est importante sur l'hippodrome de Compiègne. Je pense qu'elle peut remporter ce quintet. Attention également au 16 Mugamara, qui doit avoir la pointure d'une épreuve de ce genre. D'autres infos pour ce quintet, puis pour les autres compétitions du jour, bien évidemment, direction comme d'habitude rmcsport.fr.
Merci Sébastien. Il est quelle heure? 17h56. C'est l'heure de Martial Fernandez qui arrive pour prendre
Bonsoir,
le relais.
Bonsoir messieurs.
Nous on est dans la bordure, on va aller récupérer.
Et juste pour vous dire, Cyril aura beaucoup plus de temps pour s'exprimer. 18h20 tout à l'heure, il pourra tout nous expliquer sur cette étape où on vous retrouve avec toute la Dream Team à 19h. 18h, 19h, un programme riche évidemment, l'intégrale Tour de France qui continue. On aura le héros du week-end avec nous dans cette intégrale aussi. C'est Jimmy Vico, le nouveau recordman d'Europe du 100 mètres. À tout à l'heure.
RMC, Intégrale Tour.